combien que je suis vivant, car cet après-midi, vous verrez ma gloire.
Amen.
Vous verrez ma gloire, car je suis un Dieu vivant.
Amen.
Vous avez entendu les témoignages de mes enfants. Je veux que vous mettiez votre foi en marche. Ayez foi en moi. Et vous verrez ma gloire dans votre vie.
Amen.
Cette foi que je vous commande d'avoir, c'est le reste. Cette foi que je vous commande, mes enfants, je vous le commande, oui, parce que je vous aime. Et je veux que vous transmettiez cette foi autour de vous. Que vous, selon votre exemple, vos comportements, votre agir, et vous verrez comment j'agirai moi à mon tour pour vous, mes bien-aimés. Allez porter, transmettez, mes enfants. Transmettez, j'ai besoin de vous. Vous êtes des gouttes d'eau. J'ai besoin de vous, bâtisseurs du royaume. J'ai besoin de vous. Alors, je compte sur vous, mes enfants. Je vous aime.
Amen.
Je suis le Dieu de gloire. Je suis le Dieu de la victoire. Mes bien-aimés, ouvrez les portes et laissez rentrer le vivant. Laissez rentrer le ressuscité pour les siècles des siècles. Je suis la lumière de votre vie. N'ayez pas peur, mais sortez dans votre tradition et rentrez ce soir dans la nouveauté de votre Dieu. Laissez votre Seigneur Jésus-Christ vous transformer, vous transfigurer, vous remettre debout. Quittez ce mur de jugement, de critique, d'orgueil, et rentrez dans la nouveauté de Dieu. Sortez dans votre certitude et rentrez dans le projet de Dieu. Mes bien-aimés, croyez-moi, votre Seigneur Jésus-Christ, je suis là, je suis au milieu de vous, et ma bénédiction est déjà en vous, sur vous et autour de vous. Je veux que mon peuple soit un peuple joyeux, un peuple dans la paix. Je veux que vous soyez des êtres lumineux, des êtres nouveaux, car aujourd'hui, mon regard est posé sur chacun de vous.
Amen.
J'ai eu une image comme vous étiez tous comme des arbres, mais les arbres qui n'avaient pas grand chose dessus. Il y avait un souffle qui soufflait, un vent assez fort qui faisait tomber toutes les feuilles mortes qui étaient sous ces arbres. Après, il y avait comme le soleil, le feu du soleil de Dieu tombait. Ça brûlait tous les scories de ces arbres, tout ce qui n'était pas bon. Après, la parole de Dieu était parlée, était proclamée, et le vent encore soufflait, et ces arbres portaient beaucoup de fleurs, des fruits. Vous êtes des arbres, vous allez porter des fruits, parce que Dieu vous récrée aujourd'hui, une récréation, une restauration, pour être à l'image, à ressemblance de Dieu, pour porter une image, pour une création nouvelle. Amen. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas
faire. Vous avez entendu ce passage qui vous a été dit. Sortez de vos traditions, sortez de ce que maman t'a appris, sortez de ce que tu as appris avec maman, ton vieux livre, sort ça, du nouveau, Jésus est nouveau. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est quoi? C'est cette nouvelle création que Dieu veut. Avec une intelligence renouvelée, un esprit renouvelé, sort de tes traditions, va de l'avant, grandis. Amen. Voilà. Alors laissons le faire.
Le Seigneur nous dit qu'il nous donne un cœur capable d'écoute et de compréhension cet après-midi. Qu'il sème en ce moment même l'esprit d'intelligence sur chacun de nous. Et il nous dit, cet après-midi, je vais vous déranger. Cet après-midi, je vais remuer au plus profond de votre être ce que je vais semer. Parce que j'ai une semence particulière à vous donner aujourd'hui. Soyez à l'écoute, soyez prêts pour que vous puissiez accueillir toute ma grâce et ma bénédiction. Amen.
Nous allons faire une prière ensemble avant d'entendre la parole de Dieu. Nous allons demander au Seigneur cet après-midi d'ouvrir la porte de notre cœur, pas notre intelligence. La Bible dit dans les Actes au chapitre 1er, verset 8, vous allez recevoir une puissance et vous serez des témoins.
Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu qui est une parole de vie, Jésus dit dans Jean chapitre 6, les versets 68, Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, moi, je ne peux pas toucher ton cœur. Je suis un pécheur comme toi. J'ai besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'entendre le seul qui a les paroles de la vie, c'est Jésus de Nazareth. Voilà pourquoi je vous en supplie maintenant, ouvrons nos cœurs et laissez Jésus toucher et parler à notre cœur. Amen. Nous pouvons mettre ensemble notre main vers le Seigneur. Seigneur, ta parole est une parole de vie. Nous te demandons cet après-midi de nous donner cette parole qui vient de la part du Père. Ô Père, dans le nom de Jésus, regarde ton peuple en ce moment. Viens parler à mon cœur et viens parler à notre cœur. Viens nous libérer, toi qui es le bon berger de ton peuple. Et viens consoler, viens délivrer, viens apporter, Seigneur, le salut. Manifeste ta gloire et ton règne ici ce soir, pour la gloire de ton nom. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 29. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Frères et sœurs bien-aimés, cet après-midi, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde, celui qui nous délivre, celui qui nous console, celui qui donne la paix, est au milieu de nous. Car la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est le même hier, aujourd'hui, et il n'a pas changé. Jésus est ici cet après-midi, frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Vous avez entendu les merveilles qu'il a fait dans la vie des frères et sœurs, qu'ils ont raconté leur témoignage. Et cet après-midi encore, Jésus est ici. Mais il y a une chose qu'il a besoin. Il a besoin de notre collaboration. C'est quoi notre collaboration ici cet après-midi? Il y a des gens qui sont venus pour prier pour leur guérison. Il y a des gens qui sont venus pour demander leur délivrance. Il y a des gens qui sont venus chercher une réponse. J'ai une bonne nouvelle cet après-midi pour vous tous. Je vous demande qu'une chose. Dieu a tant aimé le monde et Dieu est content que tu sois ici cet après-midi. Il y a une chose qu'il cherche et il attend de toi. Il ne veut pas que tu cherches la guérison, mais tu cherches le guérisseur. Il ne veut pas que tu cherches les dons, mais tu cherches le donateur. Voilà pourquoi je vous en prie maintenant, fixons les yeux sur Jésus. Il n'y a que lui qui a les paroles de la vie éternelle. Ce soir, cet après-midi, nous allons entendre parler de la puissance du pardon, de la puissance de la délivrance, de la puissance de ce pardon qui libère, qui guérit et qui console. Frères et sœurs bien-aimés, bien souvent dans notre vie, bien souvent dans notre langage, on utilise ces trois phrases. Pardon, je t'aime, merci. Ça, ce sont les trois mots que dans la vie de tous les jours, on entend ces phrases. On ne peut pas aimer Dieu si on n'aime pas son frère. Le christianisme est une religion d'amour. Mais le christianisme ne se suffit pas simplement à l'amour. Le christianisme se révèle comme une religion du pardon. Le vrai chrétien, un chrétien authentique, c'est un chrétien qui pardonne. Et bien souvent, on entend dire « pardonner, c'est pas facile ». Il y a des gens qui regardent la télévision ici, qui lisent les journaux. Il y a des gens ici, samedi dernier à 7h, le président de la FIFA, Blatter, il a dit « Je pardonne, mais j'oublie pas ». Je pardonne, mais je n'oublie pas. Ça, c'est pas chrétien. Les hommes disent « Je pardonne, mais je n'oublie pas ». Voyez-vous, frères et sœurs, cet après-midi, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire pardonner dans la Bible. Le premier point, la miséricorde de Dieu. Le deuxième point, le pardon biblique. Qu'est-ce que cela veut dire? Le troisième point, laisser Dieu nous réconcilier. Je dis, laissez Dieu nous réconcilier. Frères et sœurs, il y a une chose qui est vraie. Dieu t'aime tellement. Et Dieu est content que tu sois ici cet après-midi. Il a dit à Marguerite Marie de la Coque, en ce mois du Sacré-Cœur, « Vois ce cœur qui a tant aimé le monde, qui reçoit de la part que de l'indifférence. » Frères et sœurs bien-aimés, Dieu, en mourant sur la croix, nous a déjà pardonné. Les dernières paroles de Jésus sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et quand on entend des chrétiens, quand on entend des personnes qui sont blessées et qui ont été offensées, quand on leur dit « Est-ce que tu veux pardonner ?» Bien souvent, même des charismatiques, même des gens qui vont à la messe tous les jours, c'est très très difficile de pardonner. Je veux définir maintenant la parole qui veut dire pardon. Qu'est-ce que c'est que le pardon? Le pardon, c'est la puissance qui guérit le cœur. Le pardon, c'est la puissance qui guérit les cœurs. Je change encore. Le pardon, c'est la douche du cœur. Le pardon, c'est la puissance qui guérit les cœurs. Le pardon, c'est la douche du cœur. Le pardon est libération. Le pardon, c'est la délivrance. Bien souvent, quand on entend parler du pardon, eh bien, on se demande. La Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs bien-aimés, il y a une chose que nous devons comprendre dans le processus du pardon. La Bible dit dans les livres d'Ézéchiel au chapitre 33, verset 11, Dieu dit, je ne veux pas la mort du pécheur, je veux qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, Dieu veut que le pécheur se convertisse et il vive. Le bon larron au côté de la croix de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour gagner son paradis? C'est pas parce qu'il a été à la messe le dimanche, mais simplement parce qu'il a dit « Pour moi c'est juste, alors que toi tu es innocent ». Premier point pour accueillir le pardon de Dieu, c'est reconnaître notre péché. C'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Ce qui bloque ce processus de pardon, c'est notre orgueil. L'orgueil nous empêche de rentrer dans le pardon de Dieu. Vous allez voir que, frères et sœurs, Dieu de son côté, il pardonne. Le pape François, depuis 2 ans qu'il est pape, il a dit des phrases merveilleuses sur le pardon et sur la miséricorde. Il dit, Dieu pardonne toujours, mais c'est nous qui doutons du pardon de Dieu. Dieu pardonne toujours. Et voilà pourquoi, au mois de décembre, il a introduit cette année sainte de la miséricorde. Parce que notre société a besoin de la miséricorde, a besoin du pardon. Voyez-vous, un homme et une femme qui n'a pas expérimenté le pardon, c'est difficile de pardonner. Je vous annonce une mauvaise nouvelle. La cause du divorce, c'est quoi? C'est le mariage. La cause du divorce, c'est le mariage. Vous savez pourquoi c'est le mariage? Parce que dans nos familles, on a du mal à pardonner à son époux et à son conjoint. La cause du divorce, c'est le non-pardon, c'est la rancune. Chapitre 1. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Frère Ernest disait tout à l'heure, le problème, ce n'est pas quand on s'énerve, mais ce que nous faisons de notre colère. Vous voyez, quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un est bien, il se lève le matin, il dit « Ma chérie, je vais au boulot », il donne un bisou par là, il rentre et il va au boulot. Et quand il rentre du travail, et si ça n'a pas marché, si il n'est pas heureux, si la femme n'a pas préparé le repas qui s'attendait, il rentre du boulot, il est énervé, il n'est pas content. Et quand la femme cherche à parler, on ne parle plus, on ne dialogue plus. Et la cause de tout ça, frères et sœurs, c'est notre orgueil. Notre orgueil nous empêche de rentrer dans ce dialogue avec nos épouses. Et bien souvent, quand dans les mariages, quand il y a des difficultés, quand il s'agit de nous réconcilier, c'est bien souvent le soir. Et quand ça va très mal, dans le lit, il y a 2 mètres de distance. Le mari, il dort de l'autre côté. La femme, il dort aux États-Unis. Le mari, il dort au Canada. On ne se regarde plus, hein. Le matin, on se lève, on ne dit même pas bonjour. On arrive à table, on mange, passe-moi le sel, passe-moi le pain. On ne se regarde plus. Parce que la veille, on a discuté. Et ensuite, le dimanche, on va à la messe. Le prêtre, il dit, la paix soit avec vous. La paix, la paix. Alors que le soir, tu as discuté avec ton mari, avec ton époux, et à l'église, la paix, la paix, la paix. Vous voyez, nous on est comme ça. On est comme ça. Mais Dieu nous dit que le soleil ne se couche pas sur ton colère. Se réconcilier avec Dieu, c'est ça le cœur et le grand problème du christianisme. On a du mal à pardonner parce que on est humain. Dans le mot pardon, il y a le mot don. Le pardon vient d'un mot latin qui veut dire grâce, qui veut dire gratis. Le pardon, c'est un don gratuit. On ne l'a pas payé. L'apôtre Paul dit dans la lettre aux Romains chapitre 5 verset 8, la preuve que Dieu nous aime alors que nous étions pécheurs, Christ est mort sur la croix. Vous et moi, on n'a pas payé notre salut. On l'a reçu gratuitement. Gratuitement. Alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est quoi le pardon biblique? Nous sommes ici maintenant au chapitre 50 du livre de la Genèse, au verset 15. Quelqu'un qui ne pardonne pas vit dans l'amertume. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'a pas la paix. Quelqu'un qui ne pardonne pas ne dort pas. Nous sommes ici dans le chapitre 50 de livre de Genèse au verset 15. C'est l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Et quand le père de Joseph, qui s'appelle Jacob, il est mort, les frères de Joseph dirent, Joseph va se venger parce que on a vendu Joseph. Et alors, les frères de Joseph ont commencé à trembler parce qu'ils pensaient que Joseph va se venger. Alors Joseph dit à ses frères, « Qui suis-je pour me venger ? Dieu s'est servi de votre erreur pour tirer un bien. » Et Joseph a pardonné à ses frères. Dans la Bible, Joseph, comme disent les exégètes, c'est le prototype, c'est-à-dire la préfiguration de Jésus. Joseph, il pardonne à ses frères, alors que c'est ses frères qui l'ont vendu. Et Joseph dit, « Suis-je Dieu pour me venger ? La vengeance appartient à Dieu. » Il y a des gens qui disent, « Je pardonne comme Blatter, je n'oublie pas. Je pardonne, j'attends la vengeance de Dieu. » Ça, ce n'est pas biblique. Qu'est-ce que c'est que le pardon biblique ? Le pardon biblique, c'est quoi ? S'il y a quelqu'un au milieu de nous, hier jusqu'à aujourd'hui, n'a jamais dit cette prière, se lève la main, ou il prend la première pierre qui se trouve dans cette basilique, il peut me lancer. Matthieu chapitre 6, les versets 9 à 14. Pardonne-nous nos offenses.
Quoi?
Non, 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 ne dites pas ça. Pardonne-nous nos offenses. On aime que Dieu nous pardonne, mais on n'aime pas pardonner aux autres. Alors que Jésus nous apprend, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le problème, c'est lequel? On attend à ce que celui qui nous a offensés, qui nous demande pardon. Alors, à ce moment-là, je veux me dire, ah oui, je mérite le pardon. Mais le pardon, c'est pas ça. Le pardon, c'est pour ma paix. Le pardon, ça m'aide à vivre en paix. Le pardon, ce n'est pas que je dois attendre celui qui m'a offensé et me demande pardon. Ça ne marche pas comme ça. Le vrai processus du pardon. Frères et sœurs, dans le livre de Tobie, il est dit, le juste pêche 7 fois le jour. Le juste pêche 7 fois le jour. Ça veut dire que il n'y a personne sur la terre, il n'y a pas une journée qui ne pêche pas. Un bon chrétien, c'est un chrétien qui se confesse. C'est un chrétien qui se confesse et qui demande pardon. La température de ton charismatique chaud, de ton christianisme chaud, se mesure par ta capacité de pardonner et de demander pardon à Dieu. Frères et sœurs, c'est là le secret du christianisme. Celui qui vous parle, frères et sœurs, je me confesse tous les 15 jours. Parce que je suis un pécheur. Parce que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. S'il n'y a pas cette miséricorde-là, je ne suis pas en paix. Dans les années 97, j'étais au Congo, au monastère, et ce jour-là, c'était la guerre civile. Et des hommes armés sont entrés dans ce monastère et ils nous ont encerclés. Et j'étais à l'économat, j'étais l'économe, et il y a un gars qui m'a pointé un pistolet comme ça, parce qu'il voulait qu'on puisse lui donner tout l'argent du monastère. Et à ce moment-là, j'ai entendu le pistolet rouler. Et dans mon cœur et dans mon esprit, mon sang s'est fermé, s'est arrêté. Et à ce moment-là, alors qu'il était prêt pour tirer, j'ai entendu le colonel dire « Arrête !» Et ce jour-là, ils ont violenté les sœurs, ils ont pris tout l'argent qui était dans les caisses du monastère et ils sont partis. Le soir, on est parti à la messe. Vous savez qu'est-ce qui nous attendait? L'évangile du jour. Qu'est-ce que c'est l'évangile du jour? C'était quoi? Aimez vos ennemis, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Quoi? Après cette journée-là! Pardonnez à ceux qui vous ont offensé, aimez vos ennemis. Nous étions 40 frères et sœurs. Ce jour-là, ma vie, ma façon de vivre, la foi a complètement changé. Le prêtre qui nous célébrait la messe nous a dit, on doit commencer à bénir tous ces bandits qui sont venus nous visiter. On doit commencer à bénir. La prière spontanée. Quand quelqu'un qui t'a offensé, que tu as eu le pistolet ici comme ça, tu vas dire, bénis-le Seigneur, bénis-le. Comme ton mari qui t'a laissé ou que tu t'es discuté, qui n'est plus avec toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, bénis mon mari, bénis celui qui m'a offensé. Frères et sœurs, le cœur de l'homme, dit le prophète Jérémie, est très compliqué. Seul Dieu peut le comprendre. Et alors là, on n'avait pas de solution. Ou tu haïs, ou tu choisis de rentrer dans la grâce, c'est-à-dire d'accueillir par la grâce de Dieu le pardon. Parce que le pardon, c'est le don de Dieu qui m'est fait, et pour que je puisse le donner à mes frères, frères et sœurs, le pardon, c'est le don de Dieu qui nous a été fait pour que nous puissions le donner. Quelqu'un qui se sait pardonner peut pardonner. Quand vous allez vous confesser à un prêtre, à la fin de la confession, après la contrition, qu'est-ce que dit le prêtre? Comme le Père a envoyé le Saint-Esprit, moi par le ministère de l'Église, je te pardonne. Et ce soir-là, pendant cette célébration liturgique que je vous raconte, nous avons demandé au Seigneur la grâce du pardon. Et nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Et je vous assure, alors qu'on était triste, alors qu'on était terrorisé, on a commencé à dire « Comment ne pas te louer ?» Ça ne marche pas seulement quand tout va bien. Comment ne pas te louer, ça marche quand tu es dans la galère. Ça marche de plus quand tu es dans la galère. Et à ce moment-là, on a loué le Seigneur. On a béni ceux qui nous ont offensés. Frères et sœurs, le pardon biblique consiste à une décision. L'apôtre dit, fais la paix en présence du Christ pour ne pas donner pouvoir au diable. Jésus nous dit, quand tu te présentes, réconcilie-toi avec ton frère. Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas la paix, il n'a pas la connexion directe avec le ciel. À cause du non-pardon. Frères et sœurs, beaucoup de médecins, même la science nous disent, un cœur brisé, un cœur qui ne pardonne pas, la racine, l'origine de beaucoup de problèmes psychologiques, physiques, c'est dans le non-pardon. C'est dans la rancune. C'est dans la vengeance. Alors que la Bible nous dit, pardonne à ton frère. Il y a en Afrique, il y a quelques années, deux fils et avec un père. Un jour, le père est rentré du travail, il voit ses deux fils, il leur dit, va chercher de l'eau. Et le grand frère est parti chercher de l'eau. Il dit au petit frère, tu prépares la table, comme ça va manger. Et ils ont mangé. Le lendemain, le père va travailler et les deux enfants sont restés ensemble. Ils ont commencé à jouer. Comme dans la maison, dans leur famille, ils avaient une poulaille. Et ils ont commencé à faire un jeu. Ils ont commencé à jouer. Le grand frère a pris le poulet, il a jeté en l'air. Et quand il a jeté en l'air le poulet est revenu et il y avait un poteau, il a pris le poteau, bouf, et le poulet est revenu par terre et il est mort. Et à ce moment-là, le grand frère, il regarde le petit frère, il dit, attention, ne dis pas à papa. Le papa est rentré, ils ont mangé, et le papa a demandé, comment ça va? Tout va bien. Le lendemain, le papa, il vient, il dit, tu vas aller au marché, faire du marché pour chercher ce qui nous manque à la maison. Le grand frère y va. Et quand il revient, le papa dit, je veux sortir, il faut que ce soir tu prépares à manger. Le petit frère regarde le grand frère et dit, c'est toi qui dois préparer. Et le petit frère dit au grand frère, Bumbaber de chicken, souviens-toi du poulet. Alors, le petit frère dit au grand frère, et le grand frère, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, eh oui, c'est vrai, je me rappelle du poulet. Il va préparer le repas. Le lendemain, le grand frère reçoit l'invitation à aller à un fête d'anniversaire. Le petit frère n'était pas invité. Le petit frère, quand il a entendu ça, il dit, je veux aller à l'invitation, je veux aller à l'invitation. Alors le grand frère le voit, il lui dit, on t'a donné la carte d'invitation. Il dit, non, c'est la tienne. Alors le grand frère lui dit, non, c'est pas vrai. Et le petit frère lui dit, souviens-toi du poulet. Et à ce moment-là, il a donné la carte d'invitation à son petit frère. Le petit frère, il est allé à sa place. Ça faisait comme ça, ça durait un mois à cause d'un secret douloureux. Un beau jour, le papa revient du travail. Et quand ils ont fini de manger, le petit frère et le grand frère vont vers le père. Il lui dit, papa, j'ai quelque chose à te dire. Et le père lui dit, dis-moi mon fils. Il dit, papa, tu sais, il y a un jour quand tu n'étais pas là, on a joué et il y avait ce chicken qui est mort. Et je suis désolé de ce que j'ai fait, papa. Je ne le ferai pas. Pardonne-moi, papa. Et le père le regarde, lui dit, oh, mon fils. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est juste un poulet. je suis très content que ce que tu as fait, tu m'as demandé pardon, c'est bien, sois en paix. Le grand frère, il s'en va très heureux et il dit comment ? Ça fait des mois et des mois, je vis avec cette remords, cette sens de culpabilité à cause de ce poulet. Alors que le père lui dit, mon frère, mon fils, c'est pas grave, sois en paix. Alors que ça faisait des mois, il vit avec ce secret douloureux. Beaucoup de personnes, frères et sœurs, ont des secrets douloureux parce qu'ils ne demandent pas pardon à Dieu. Il est écrit dans Luc au chapitre 15, le père du fils prodigue, il savait que le fils prodigue avait désobéi. Mais le père, depuis des mois et des mois, il attendait que le fils revienne. Et le père, quand il voit le fils arriver depuis de loin, le père était content. Et quand il voit le fils, eh ben, le père, sans même qu'il commence la liste, le père ouvre les bras et il embrasse son fils. Et le fils lui dit, père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Frères et sœurs, le non-pardon, on pêche contre Dieu et on pêche contre nos frères et sœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs, découvrir l'image de Dieu comme le Père miséricordieux. Dans notre société aujourd'hui, on a besoin de cette image de miséricorde de Dieu. Le secret de la guérison, le secret de la délivrance, le secret de la libération consiste dans l'humilité. Sainte Thérèse d'Avila dit « L'humilité attire la grâce. » L'homme orgueilleux, l'homme qui est rempli de soi, a du mal à dire « Mon chéri » ou « Ma chérie, je te demande pardon. » Si dans nos familles, dans nos relations, si on avait cette humilité de reconnaître nos erreurs et de demander pardon, beaucoup de familles vivront dans la paix et seront beaucoup plus heureux. Même dans les relations du travail, à travers nos collègues, à travers des gens que nous collaborons tous les jours, bien souvent, pourquoi on se chamaille ? Parce que quelqu'un veut avoir raison. Quand un mari et une femme se discutent, surtout les hommes, on aime souvent avoir raison. On aime ça. On aime avoir raison. Alors que il suffit simplement de reconnaître, de dire, ma chérie, je ne cherche pas la raison, je cherche la paix. Tu vas être plus content, tu seras plus heureux, tu seras plus dans la paix. Voilà pourquoi, frères et sœurs, la clé du non-pardon, avant tout, c'est l'humilité. L'humilité, dit Sainte Thérèse d'Avila, attire la grâce. Et ce qui nous empêche bien souvent de rentrer dans ce processus du pardon biblique, c'est ce que le frère Hermès disait tout à l'heure, nos sens de culpabilité à cause de notre mentalité d'être parfait, d'être clean, d'être cool, mais surtout, il faut que j'aie rien à me reprocher. Frères et sœurs, il n'y a personne ici dans cette assemblée qui n'a rien à se reprocher. Il n'y a personne. Dans le christianisme, ça n'existe pas. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit, toutes nos justices devant Dieu ont des tâches. Toutes nos justices devant Dieu ont des tâches. Voilà pourquoi Thérèse dit, quand je me présenterai devant Dieu, je me présenterai les mains vides pour accueillir la miséricorde. Voilà pourquoi la miséricorde nous redonne notre identité de fils de Dieu. Quelqu'un qui se sait pardonner, il est capable de pardonner. Il n'y a pas longtemps, j'ai un ami prêtre qui m'a invité beaucoup de fois en Italie, dans sa paroisse, où il y a un groupe de prière. Et un jour, j'ai un problème. Quand je vais dans les groupes de prière, même ici ce soir, je vais avoir le même problème. Ils m'ont invité, et à la fin, on a prié. À un moment donné, quelqu'un ouvre la Bible, il y a un autre qui donne une autre parole du Seigneur, il y a un autre qui donne aussi une autre parole. Et on a commencé, ça faisait au moins 2 heures. Viens, Esprit de sainteté. À un moment donné, je dis, mais attends, mais c'est quoi cette histoire-là? Viens, Esprit de sainteté, depuis 2 heures. Mais ce Saint-Esprit-là, il vient de Rome ou il vient du Japon? Attends, le Saint-Esprit, il vient toujours, mais il faut l'accueillir. Je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que le Saint-Esprit, quand on l'invoque, il vient. Votre manière d'invoquer le Saint-Esprit pendant 2 heures. Attends, mais le Saint-Esprit, le Japon, c'est tellement si loin, il met du temps pour arriver ici. Non, c'est pas possible. Je leur dis non. Le problème, c'est quoi? Le Père, il donne toujours le Saint-Esprit. Mais nous, on n'accueille pas le Saint-Esprit. C'est là le problème. Et alors, j'ai fini ma prédication. Ils sont partis raconter au curé ce que je leur ai dit. Parce que le curé leur avait dit, invoquez le Saint-Esprit, invoquez le Saint-Esprit. Et oui, ils font ça. Alors le curé a dit, ils ont dit au curé, le frère Jean nous a dit, non, c'est pas bon ce que tu nous as dit de frère. Alors, le curé était en colère vers le frère Jean. Il voulait plus me voir. Ça faisait des mois. On était des amis, hein. On se rencontrait et lui ne me disait pas qu'il était en colère envers moi. Et à ce moment-là, j'ai pris le courage, je lui ai dit, mon père, j'ai quelque chose à vous dire. Il m'a regardé, il dit, mais qu'est-ce qu'il va me dire? Je dis, mon père, je te demande pardon. Alors il m'écoute encore. Je dis, mon père, je te demande pardon, pourquoi? Parce que je leur ai dit d'accueillir le Saint-Esprit. Alors il me dit, attends. Je dis oui, 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 je leur dis d'accueillir le Saint-Esprit. Alors il me dit, ils m'ont raconté que tu n'étais pas d'accord avec moi aussi. Je dis non, 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 je leur ai simplement dit il faut accueillir le Saint-Esprit. Si ça t'a offensé, je te demande pardon. Alors il dit, Jean, mais tu as raison. Je dis, je ne cherche pas à avoir raison. Je voulais juste faire la paix avec toi. Et à ce moment-là, il m'a embrassé et après, il s'est mis en genoux et il m'a dit, Jean, moi aussi, j'ai à te demander pardon. Et on a fait la paix, on s'est réconciliés. 2 mois après, ce prêtre était en colère avec ses nièces. Il ne se parlait plus avec ses nièces. Ça faisait des mois. Il était un prêtre. Hein. Il disait la messe tous les jours. Et ses nièces m'ont appelé au téléphone. Ils m'ont raconté ça. Et quand ils m'ont raconté ça, j'étais de visite à Rome. Et je suis passé chez lui. Et c'était l'anniversaire de la mort de sa sœur. Et ce jour-là, je lui ai dit, « Père, est-ce que tu ne veux pas pardonner à tes nièces ?» Il m'a dit, « Jamais de la mort !» J'ai commencé à trembler, je dis d'accord, je suis allé dans l'église, je me suis mis à genoux devant le tabernacle, j'ai dit, Seigneur, aide-le, il a besoin de toi. J'ai prié, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine. Après 1 semaine, il revient, il me dit, Jean, est-ce que tu ne veux pas appeler mes nièces au téléphone? Je dis oui. J'appelle ses nièces au téléphone, je dis, écoutez, votre oncle a besoin de vous. Elles me disent, on ne veut pas le voir. Je dis, non, 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 venez, c'est moi qui vous invite. Alors, je prends la voiture, je vais chercher ses nièces, on arrive au presbytère. Et il était là. Ils ont commencé à sortir tout ce qu'ils avaient fait, toutes les paroles, tout ce qu'ils avaient vraiment dit de mauvais, les uns avec les autres. Ça a duré 2 heures. Au bout de 2 heures, ils ont fait la paix. Et à la fin, on a célébré la messe. Et après, je le regardais, ils étaient tous heureux comme des anges. Et à la fin, ils m'ont dit, merci. Je leur dis, non, 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 ne me dites pas merci. Dites merci à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la réconciliation, c'est la guérison de nos problèmes de famille. La réconciliation, c'est la guérison de nos problèmes de couple. Vous allez me dire, mais pourquoi, frère Jean, tu nous dis, la réconciliation, c'est la guérison des couples. La Bible dit, dans la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, si vous avez quelque chose à pardonner en présence du Christ, à cause du Christ, pardonnez à vos frères et sœurs. c'est pas à cause de quelqu'un, mais à cause du Christ. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nos problèmes de culpabilité, c'est à cause du non-pardon. Qu'est-ce qu'il faut faire quand j'ai un problème de culpabilité? Je demande souvent aux gens de faire ceci, d'écrire. S'ils ont des rancunes, s'ils ont des problèmes avec leurs parents, de mettre tout ça par écrit et ensuite de brûler. Et pendant que tu brûles, tu dis à notre Père et ensuite tu invoques le Saint-Esprit. Et quand tu fais ça, le sang de celui qui est mort sur la croix et qui nous a réconciliés, et après, le pardon chrétien, le pardon biblique, c'est une décision. Chaque fois que dans mon esprit, je me rappelle du passé, je me rappelle de ce qui s'est passé, si je décide dans mon cœur, comme le Christ m'a pardonné, je pardonne, j'aurai pas de problème de culpabilité. Le problème de culpabilité, c'est quoi? C'est parce que nous n'avons pas accueilli le pardon de Dieu. Frères et sœurs, il y a un jour, je me suis confessé. Et quand je me suis confessé, j'avais ce sens de culpabilité. Et j'invoquais le Saint-Esprit pour que le Seigneur enlève de mon cœur ce sens de culpabilité. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Moi, je t'ai pardonné, mais toi, tu ne t'es pas pardonné. Quand Dieu nous pardonne, nous devons pardonner à nous-mêmes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, si nous voulons sortir de notre culpabilité, et il faut accueillir le pardon de Dieu, mais aussi de pardonner à nous-mêmes. Voilà pourquoi être chrétien consiste à être des modèles de pardon. Jean-Paul II, pourquoi après son attentat, il attendait son agresseur? Non, c'était lui qui allait voir son agresseur et il a demandé pardon. C'est lui qui a pris l'initiative de demander pardon. Le pape Benoît XVI, après l'histoire du Vakilis, c'est lui qui va trouver son majordome et il demande pardon. Frères et sœurs bien-aimés, le christianisme, le vrai, consiste dans le sacrement de la réconciliation. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se confesse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui pardonne. Un jour, un monsieur rencontre une femme dans un gala. Il lui dit, « Madame, le champagne vous rend jolie. » Quel est le lien? Madame, le champagne vous rend jolie. La dame regarde et dit, monsieur, mais je n'ai pas bu une coupe de champagne, j'en ai bu deux. Ce soir, si tu rentres ce soir à la maison, tu dis à ton mari, mon chéri, le sacrement de la réconciliation te rend joli et beau. Il va te dire, mais comment? Je ne me suis pas confessé. Et tu vas lui dire, moi si, le sacrement de la réconciliation nous rend joli et beau. Quelqu'un qui se confesse tout le temps, il a la paix et il est heureux, il est joli et il est beau. Quelqu'un qui ne se confesse pas, il est aigri, il n'a pas la paix. Frères et sœurs, la guérison que nous cherchons, la libération, le Christ nous a déjà accordé à la croix. Le problème c'est quoi? Nous devons rentrer dans ce processus de guérison pour accueillir la grâce de Dieu. La grâce nous a été communiquée. Chaque fois que je vais évangéliser dans une paroisse, il y a toujours un moment de réconciliation. Parce que la réconciliation avec Dieu nous donne la paix, nous fait vivre de manière différente. Un chrétien qui est réconcilié, qui est pardonné et qui se sait pardonner, vit ses relations humaines de manière différente. Ce n'est pas quelqu'un qui est plein de lui-même, qui prétend aux autres. Regardez la Vierge Marie. La Vierge Marie, quand elle passait, c'est pas qu'elle donnait des billets de visite. Attention, c'est moi la Vierge Marie. La Vierge Marie est humble pourquoi? Parce qu'elle ne se regarde pas elle-même. Elle indique son fils Jésus. Même dans toutes les apparitions, jamais la Vierge Marie a contredit ce que dit l'Évangile. La Vierge Marie montre toujours son fils. Nous, on a du mal à puiser à la source de la miséricorde. Pourquoi ? Oh, je veux me confesser à un homme. Hier, je me suis confessé dans la cathédrale de Ferrara à un prêtre qui m'a fait un cours de théologie. Je suis arrivé, il m'a vu. Il dit, oh, salut Jean. Il dit, comment ça va ? Je dis, ça va bien. Il me dit, qu'est-ce que tu as besoin ? Je dis, je veux me confesser. Je dis, oh non, non, non. Je dis, non, je veux me confesser. Je me suis agenouillé, je dis, bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Et il m'a confessé. J'ai pas peur parce que je sais que je ne parle pas à un homme. Je parle à Dieu. Je parle à Dieu quand je me confesse. Amen. Voilà pourquoi je dis, le Père Michel, il est au fond. Vous devez l'épuiser. Vous devez l'épuiser pour recevoir le pardon de Dieu. Il y a un mois, j'ai accompagné des jeunes du 6e à visiter la cathédrale de Ferrara. Et avec moi, il y avait 5 profs. C'était une visite organisée de la cathédrale. Des jeunes qui vont à l'école. Vous savez bien, les adolescents, c'est pas facile de parler du péché. C'est pas facile de parler du jugement dernier. Et nous sommes rentrés dans l'entrée du cathédrale. Il y a ces images comme dans la chapelle Sistine sur le jugement dernier. Je leur ai raconté, je leur ai expliqué ce que c'est. Je leur ai expliqué ce que c'est que le péché. Quand on est rentré dans cette cathédrale, on a commencé à visiter. Un jeune est venu me voir et me dit, « Monsieur, est-ce que je peux aller me confesser ?» Je dis, « Mais bien sûr !» Alors, je vais chercher le prêtre. Le prêtre, il arrive, je dis, « Voilà, il y a ce jeune-là qui veut se confesser. » On était 25, hein. Et un s'est confessé. Il est revenu. Il a dit aux autres, « Je me suis confessé, je me suis confessé. » Les autres ont dit, moi aussi je veux me confesser, moi aussi je veux. Et ils étaient 25, tous ils se sont confessés ce jour-là. Les profs, qui n'étaient pas des pratiquants, ils m'ont commencé à dire, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Je dis, je leur ai rien fait. Et ensuite, quand on a fini notre visite, tous ils étaient en paix, ils étaient heureux. Et quand on est rentré à l'école, 15 jours après, ces 5 profs, ils ont raconté à tous les profs de l'école, ils ont dit, jamais on n'a vu ça, des adolescents de cet âge qui vont visiter une cathédrale et qui se confessent. Je dis, un chrétien, c'est quelqu'un qui prend la douche tous les jours. Parce que si tu ne te laves pas, si tu ne te confesses pas, ton âme pue. Frères et sœurs, il faut se confesser, il faut demander pardon. Mais ce n'est pas question d'obligation, mais c'est une question de vie, c'est une question de paix, c'est une question de ce que vous cherchez, le bonheur, le vrai bonheur. Je l'ai expérimenté au pied d'un prêtre. Frères et sœurs, le vrai bonheur, je l'ai expérimenté auprès d'un prêtre, parce que je sais, comme dit Petite Thérèse de l'Enfant Jésus, j'ai un papa, mon papa chéri, il est miséricordieux, il m'aime. Le problème, quand on va se confesser, on pense que le prêtre va me juger. Si je demande à mon épouse, si je dis chérie, pardonne-moi, demain, de quoi je vais avoir l'aise? Je veux me sentir ridicule si je demande toujours pardon à mon épouse. Si je suis le premier à demander pardon, frères et sœurs, demander pardon nous aide à vivre notre relation amoureuse, nous aide à vivre notre vie de famille plus heureuse et plus dans la paix. Un chrétien charismatique, vacciné, baptisé, c'est quelqu'un qui se réconcilie avec Dieu. Si vous n'avez pas compris, il y a une cassette, vous allez écouter après. Le non-pardon pourrit notre vie. Le non-pardon pourrit notre vie. Voilà pourquoi quelqu'un qui ne pardonne pas a toujours la guerre avec lui-même. Quelqu'un qui ne pardonne pas n'a pas la paix. N'est pas en paix avec lui-même et il est toujours en guerre avec les autres. Troisième chose qui empêche le non-pardon, le jugement. On a peur de ce que l'autre va me dire si je vais lui demander pardon. Jésus dit au l'évangile de Matthieu chapitre 6, les versets 7, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Frères et sœurs, si j'attends que la personne que j'ai offensée me demande pardon, je ne veux pas me réconcilier. Si je veux avoir la bonne santé, si je veux être bien dans ma peau, et si j'ai compris ce que c'est que le pardon, je ne peux pas dormir si j'ai discuté avec ma femme. Je ne peux pas dormir si je suis fâché avec mes enfants et avec mes frères et sœurs. Frères et sœurs, j'ai connu ça. Ce que je suis en train de vous dire, c'est une question de vie. Mon père a été assassiné et empoisonné. Mon père a été empoisonné. Et je sais par qui? Par ma tante. La plus grande décision de ma vie, j'ai compris un jour, quand j'avais 17 ans, quand un prêtre qui savait m'a dit: Jean, si tu veux être en paix et si tu veux vraiment vivre heureux, pardonne à ta tante. Et depuis le jour que j'ai compris ça et j'ai pris la décision de pardonner, je suis en paix. Alors que mes frères qui voulaient faire la vengeance, ils vivent dans ce tourment. Jusqu'à ce que ce jour, ils m'ont dit: mais comment tu fais? Toi, tu es en paix, tu parles avec elle, tu pries pour elle. J'ai dit: oui, la parole de Dieu nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous ont offensé. Et alors, ils m'ont dit: comment on peut faire? Et un beau jour, je me rappelle bien, c'était le 17 janvier, on a prié ensemble, en famille. Et nous avons demandé que l'esprit du pardon vienne sur nous et sur ma famille et sur mes frères. Depuis ce jour-là, mes frères et mes sœurs n'en veulent plus à ma tante. Aujourd'hui, ils prononcent des paroles de bénédiction. Et aujourd'hui, ils n'en veulent plus à ma tante. Parce qu'ils savent, comme je vous ai dit, Genèse chapitre 50, verset 17. Joseph, il dit: moi, je ne peux pas me venger. La vengeance appartient à Dieu. Moi, je vous pardonne. Frères et sœurs bien-aimés, un chrétien qui veut vivre dans la paix, un chrétien qui se sait réconcilié et qui pardonne. Voilà pourquoi, frères et sœurs, je veux conclure, comme dit Jésus au chapitre 18 de Luc. Je vous en prie, si tu veux être exaucé, si tu veux vraiment vivre dans la paix et vivre heureux, suis ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, au verset 20. Après la réconciliation, après le pardon, le verset 20 dit: je suis au milieu de vous. Après la réconciliation, après la correction fraternelle, tout ce que vous allez demander en prière vous sera accordé. Frères et sœurs, quelqu'un qui est réconcilié, quelqu'un qui pardonne, obtient toujours de Dieu. C'est ce processus biblique qui nous enseigne. Jésus dit, après la réconciliation, lisez chapitre 18 de Matthieu, après la réconciliation, Jésus dit, tout ce que vous demandez dans la prière, tout, mais tout, vous sera accordé. Voilà pourquoi je vous en supplie, frères et sœurs, ayez cette attitude d'humilité ce soir, devant Dieu, de dire: Père, Papa, je ne suis pas en paix. Papa, j'ai besoin du pardon. Papa, j'ai besoin de pardonner. Donne-moi ta grâce. Et tu vas voir que la puissance de l'amour de Dieu, il va t'élever, il va te faire entrer dans cette dynamique de pardon et tu vas te réconcilier. La réconciliation ne suffit pas simplement avec Dieu. Il faut, quand tu rentres chez toi, si tu as de la haine envers quelqu'un, si quelqu'un t'a offensé, va vers ce frère, dis-lui: je te pardonne. Ne cherche pas à discuter. Quand on va se réconcilier avec quelqu'un, c'est pas que tu vas dire: voilà, tu m'as fait ça, tu m'as fait ci. Non! Humblement, tu lui dis: je te demande pardon. Si tu commences à sortir la liste, vous allez rester de midi à 14 heures. Alors que si tu prends cette attitude d'humilité et tu reconnais d'avoir tort et tu demandes pardon, et tu vas voir que cette personne, c'est comme si tu lui faisais un chèque en blanc gratuitement. Parce que le Christ nous a fait un chèque en blanc. Si vous voulez toucher ce chèque en blanc, frères et sœurs, ce soir, il faut que ce soir, tu décides dans ton cœur. Et cette décision ne vient pas de toi, vient du Saint-Esprit. Dieu, il ne veut pas la mort du pécheur, dit Ézéchiel 33, verset 11. Il veut que le pécheur vive et il se convertit. Frères et sœurs, la bonne nouvelle de ce soir, si tu veux accueillir la grâce de Dieu, si tu veux être libéré, Si tu veux être guéri, enlève de ton cœur toute rancune, toute jalousie et accueille le Christ qui veut te réconcilier avec toi et avec lui. Et réconcilie-toi avec les autres pour pouvoir vivre dans la paix et être vraiment le chrétien que le bon Dieu attend de toi. Amen.